Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Envar, préparée par Marie Dalquier, réalisée par Clotilde Pivin. Nous sommes en province, nous sommes dans la petite commune d'Altillac, en Corrèze, chez Marcel Conche. Marcel Conche, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Mais je suis très heureux de vous voir.
Et vous habitez dans cette très belle région du sud de la Corrèze, dans la vallée de la Dordogne. Et vous êtes revenu vivre, en fait, dans la maison de votre enfance. Alors racontez-nous ce retour dans ce lieu où vous êtes né quasiment.
Eh bien, dans cette maison où je suis, qu'on appelle la Maison Neuve, j'ai passé les 5 premières années de ma vie. Je suis né dans une maison qui est dans le bas-fond, à peu près à 800 mètres d'ici. Je suis né chez mon père. Mais ma mère est morte à ma naissance. Et j'ai été à ce moment-là recueilli ici par la mère de ma mère, donc ma grand-mère, que j'appelais maman. J'ajoutais Marie, parce que je savais que ce n'était pas ma vraie mère. Elle avait, les deux sœurs de ma mère étaient des jeunes filles, l'une avait 18 ans, l'autre 22, qui se sont occupées de moi avec enthousiasme. Elle m'amenait en promenade, voyez, dans ces forêts que vous apercevez. Et puis, nous y allions et en revenions avec la chèvre, parce que j'ai été nourri avec le lait de chèvre. De là ma parenté ontologique avec Dionysos. Mais je précise tout de même que je ne suis pas absolument en accord ou en affinité avec tous les aspects de Dionysos. Je le tempère de temps en temps par l'Apollon, vous voyez. Parce que j'ai besoin aussi de la lumière, vous voyez. J'aime bien le désordre que Dionysos inspire tout de même certains jours. Mais j'ai besoin aussi de la lumière, puisque ma passion est celle de la vérité, et qu'il n'y a pas de vérité sans lumière.
Voyez. Vous dites que votre passion est celle de la vérité, et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes devenu philosophe, hein.
Certainement. Je me suis voué à la philosophie bien avant que je sache le mot philosophie, par les questions que je posais, y compris d'ailleurs au catéchisme. Et ce dont mon curé, d'ailleurs une personne tout à fait estimable, ce dont mon curé se plaignait à mon père. Marcel pose des questions. Lorsque j'étais sur la route nationale, une route qui va de Beaulieu sur Dordogne à Saint-Céré, et j'étais au bord de la route parce que j'étais trop enfant pour aider au travail. Ce travail était celui de mes parents qui, dans un pré au bord de la route, étaient en train de faner. Et pour moi, je regardais passer les voitures. Et je me suis demandé si le monde finissait au tournant. Voilà. Et ce qui est assez remarquable, c'est que je suis parti pour vérifier. D'un bon pas, vous voyez. Tellement qu'au bout d'un certain temps, mon père s'est demandé où j'étais. Et il est parti, il a vu que j'étais assez loin d'abord sur la route, vers ce tournant vers lequel j'allais. Et bien entendu, il m'a rattrapé, il m'a ramené. Alors vous savez, comme sont les adultes, moi je n'ai pas jugé bon de lui expliquer quel était mon problème, vous voyez. Non, il aurait pensé que ça n'allait pas très bien de me poser de pareils problèmes, auxquels lui-même aurait bien été empêché de répondre, d'ailleurs. C'est pourquoi c'est le genre de problème sur lequel je n'interrogeais pas les adultes. Et pourtant, vers la fin de l'adolescence, je trouvais l'existence comme étant quelque chose de plus en plus mystérieux. Je me demandais vraiment ce que je faisais là, parce que j'allais dans les champs, je savais que dans les champs il fallait faire ceci ou cela. J'allais dans les vignes, je savais qu'il fallait peler la vigne. J'allais à l'école. Du reste, j'étais un bon élève, constamment second derrière Jean Vayreau, oui, qui est un ami, il y restait. Et donc, vers la fin de l'adolescence, je me disais que les adultes devaient quand même avoir quelque chose à me révéler. C'est un sentiment étrange. Et puis je me suis aperçu qu'ils n'avaient absolument rien à me révéler. Ils étaient dans la même situation que moi. C'est-à-dire dans l'ignorance, constamment occupés à des tâches subalternes, comme travailler tous les jours, essayer de gagner leur vie, etc. Mais pour moi, j'aspirais à quelque chose de beaucoup moins banal. Voyez. Et c'est pourquoi je ne rêvais, en ce temps-là, que de lire les livres de philosophie et puis alors d'apprendre le latin et le grec. Parce que j'allais, dans ce temps-là, j'allais régulièrement au cours complémentaire de Beaulieu, au cours complémentaire, nous n'apprenions aucune langue, pour la simple raison que l'instituteur n'en savait aucune. Et donc, à 18 ans, je n'avais encore pas vraiment commencé mes études, vous voyez. Et oui, alors, cependant, comme après ma première communion, parce que j'ai été élevé dans le christianisme, vous voyez, d'ailleurs ma sœur est catholique, ma femme l'était, etc. Il y a tout un côté de ma famille qui est très chrétien, très catholique, et il y a aussi un autre côté qui est le contraire, vous voyez. Oui, et donc, en ce temps-là, après ma première communion, ma tante Pauline, c'est-à-dire une des deux sœurs de ma mère, m'avait donné quelque argent avec lequel j'avais fait venir de Paris, et je crois que c'était de la rue d'Assas, les classiques Hatier. C'est-à-dire, j'avais fait venir la liste des classiques qui se trouvent en quatrième de couverture. Et il y avait là des choses extraordinaires, hein, comme le Prométhée enchaîné d'Eschyle. Celui que j'ai lu avec attention, que j'avais fait venir justement comme classique Hatier, c'était Les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant. Alors je dois dire que le début m'a paru assez difficile. Vous savez, je n'avais que 16 ans à ce temps-là. Mais ensuite, j'ai adhéré, oui. Et tellement que voilà ce qui m'est arrivé plus tard. Figurez-vous que, à l'âge de 18 ans, le gouvernement de Vichy ayant supprimé les écoles normales primaires où j'étais entré, je me suis retrouvé comme élève boursier au lycée Edmond Perrier à Tulle. Et j'étais major, donc j'étais le chef de ma promotion. Or, les dimanches, les tables au réfectoire devaient être complétées parce que beaucoup d'élèves étaient partis chez eux. Mais j'avais décidé que nous, en tant qu'élèves maîtres, n'avions pas à compléter les tables. Ça, c'était le vulgaire des autres élèves à compléter les tables. Donc, une petite révolte. Le censeur était venu et il m'avait dit « Vous reviendrez dimanche ». Et alors, je suis revenu le dimanche et il m'a donné à traiter un sujet de morale. Je lui ai traité le sujet de morale d'après Kant. Et ensuite, il m'a dit, mais comment pouvez-vous faire un si bon devoir et vous comporter de la façon qui a été la vôtre la semaine dernière? Ah, moi, je lui ai dit, écoute, en tant que major, j'ai mes responsabilités. Voilà. Mais alors, le livre qui vraiment m'a touché profondément, que j'emportais d'ailleurs, lorsque j'allais me promener dans les bois, j'y allais avec les pensées de Pascal. Oui. Et je me suis toujours senti très proche de Pascal. Je veux dire, dans notre sensibilité.
Oui, c'est-à-dire que vous ne partagiez pas la foi catholique de Pascal.
Non, mais tout au contraire. Ah non, en ce temps-là, j'étais dans l'hésitation. En ce temps-là. D'accord. J'ai abandonné radicalement la foi plus tard. Pour des raisons que je vous dirai si vous le souhaitez, je me suis convaincu qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà.
Mais dites-nous pourquoi.
C'est extrêmement simple. Vous savez que toujours s'est posé le problème du mal. Oui, c'est-à-dire même Saint-Augustin, écrit à Saint-Jérôme, je suis dans un grand embarras. Quand je songe à toutes les peines que subissent les enfants, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant. Alors, qu'on me dise pourquoi ils subissent tant de souffrances et de mal. Et alors, j'avais déjà un âge, enfin, j'avais déjà dépassé peut-être la trentaine, oui, lorsque j'en suis venu à penser que la souffrance des enfants, je parle des enfants qui subissent le martyre, soit de la part de psychopathes, soit dans des camps, soit des maladies qu'ils ont quelquefois à la naissance et qui les font vivre dans des conditions abominables. J'ai considéré la souffrance des enfants comme un mal que j'ai appelé absolu, c'est-à-dire injustifiable à quelque point de vue que l'on se place. Donc, que Dieu autorise la souffrance des adultes, ça, je puis l'accepter. Enfin, l'explication de la souffrance de l'adulte, Saint Augustin la donne, c'est le péché originel. C'est-à-dire, nous ne sommes pas innocents de naissance. Nous sommes avec le péché. Eh bien, il se tire d'affaire, dans le cas des enfants, en admettant que les enfants, eux aussi, sont coupables du péché originel. Donc, Saint Augustin peut ainsi garder sa foi en Dieu. Mais comme le péché originel est une absurdité, d'après Pascal, hein, à ce moment-là, je ne pouvais pas admettre le péché originel. Et donc, l'argument par la souffrance des enfants a gardé toute sa force. Et par conséquent, j'ai dû renoncer à l'idée de Dieu. Mais je précise qu'il s'agit de l'idée de Dieu des philosophes. C'est-à-dire, je ne vise pas la religion. Parce qu'il me semble que la religion repose sur autre chose que la raison. Or, sur quoi repose-t-elle? Ça, ce n'est pas mon affaire de le dire. Peut-être repose-t-elle sur l'amour. Peut-être repose-t-elle sur le fait que Dieu se soit fait homme et qu'il ait montré ainsi son amour. Mais cela est hors de mon discours habituel. Si vous voulez, mon discours habituel a consisté à continuer à philosopher et alors en purifiant la philosophie moderne de tout le côté par lequel elle intègre la religion dans la philosophie. Parce que comme le dit Ferdinand Altier, Dieu est le socle de toute la philosophie moderne, c'est-à-dire que la philosophie de Descartes repose sur l'idée de Dieu, celle de Malebranche aussi, de même celle de Berkeley, celle de Wolff, celle de Kant, même de Hegel. Alors si vous admettez que l'idée de Dieu n'est pas valable, tout cela s'effondre. Et c'est la raison profonde pour laquelle je me suis finalement tourné vers les Grecs. Parce que dans mon enseignement, ou bien dans mon enseignement au lycée, ou bien dans mon enseignement en faculté, soit à Lille, soit à la Sorbonne, j'ai bien souvent expliqué toutes ces philosophies modernes. Mais finalement, je me suis tourné vers les Grecs, parce que là, chez les Grecs, je n'avais pas encore le Dieu du monothéisme, c'est-à-dire le Dieu personnel qui est cause de toutes choses et de tout ce qui se passe dans le monde.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Les Lyon-Var.
Alors nous voilà dans votre bureau, inondé de lumière. C'est un tout petit bureau, rempli de livres, et sur lequel règne ce désordre dont vous parlez dans votre livre et qui vous plaît, qui vous semble être un désordre créatif.
Oui, et alors vous avez ici les auteurs grecs, les poètes de la période archaïque, avec Théognis, etc. Ensuite, vous avez les tragiques grecs, avec Euripide, Sophocle, Échille. Puis, plus bas, vous avez Platon, toujours dans la collection des belles-lettres. Et plus bas, vous avez Aristote. Et en descendant encore plus bas, vous avez les stoïciens. Quant aux épicuriens, eh bien, voici mon édition d'Épicure, Lettres et Maximes, dans la réédition des presses universitaires.
Alors, on aperçoit sur cette commode un buste d'Épicure. Oui. Alors, racontez-nous, c'est quand même curieux que vous ayez cette sculpture. C'est la seule que je vois. Donc, racontez-nous cet amour pour Épicure qui a profondément marqué votre itinéraire philosophique.
Ce buste d'Épicure que vous voyez m'a été envoyé par un de mes étudiants. Si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais abandonné l'idée de Dieu, mais l'idée de Dieu laisse un vide immense. Parce que la philosophie est d'abord la métaphysique. La métaphysique, c'est le discours rationnel au sujet de la totalité de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a en tout et pour tout ? Le chrétien nous dit, ce qu'il y a en tout et pour tout, c'est Dieu, le monde et l'homme. Si maintenant Dieu s'est effacé, qu'y a-t-il outre le monde et l'homme ? Eh bien, la nature. Donc, si vous voulez, j'ai remplacé Dieu par la nature infinie. Et alors, je me suis donc tourné vers les Grecs et là, vers les philosophes de la nature. Je ne me suis donc pas tourné vers les platoniciens, c'est-à-dire Platon et Aristote. Un des premiers livres que j'ai écrit, après mon livre sur Montaigne ou la conscience heureuse, en 1964, a été mon livre sur Lucrèce, en 1967. Lucrèce, c'est-à-dire Épicure. C'est-à-dire, Lucrèce, c'est le disciple inconditionnel d'Épicure. Et en exposant la philosophie de Lucrèce, j'ai exposé le système d'Épicure. Et cela m'a montré la nécessité d'avoir affaire à Épicure lui-même. Et donc, j'ai recueilli les lettres d'Épicure, parce qu'il ne nous reste presque rien de son grand livre sur la nature, qui s'appelle le Périphuséos. Il reste très peu de choses que les chercheurs recueillent précieusement. Mais nous avons trois lettres, lettre à Hérodote et lettre à Pitoclès, la lettre à Ménécée, qui nous donne la substance de la pensée d'Épicure. La lettre à Hérodote, c'est le système des atomes. La lettre à Pitoclès développe la théorie d'explication des météores. Et dans la lettre à Ménécée, Épicure nous donne les conseils pour être heureux, les méthodes du bonheur. Ce sont des conseils, c'est-à-dire que Il n'y a pas proprement parlé de morale d'Épicure. Il faut distinguer la morale et l'éthique. L'éthique est quelque chose de conditionnel. La morale est quelque chose d'inconditionnel. Autrement dit, si je vois un blessé au bord de la route, est-ce que je dois lui porter secours ? La réponse est oui, inconditionnellement. Mais je suis invité au mariage de mon ami. Est-ce que je dois y aller ? Oui ou non, comme il me plaît. La réponse est conditionnelle. Il y a une éthique du médecin. Cela veut dire que s'il veut échapper au devoir du médecin, eh bien, il n'a qu'à renoncer à être médecin. Tandis que la morale est quelque chose à quoi on ne peut renoncer sans cesser d'être homme. L'éthique, on peut renoncer, l'éthique du médecin ou du journaliste, il y a une éthique du journaliste, il y a des devoirs. Mais le journaliste peut échapper à ses devoirs en cessant d'être journaliste. Donc, voyez une différence radicale que les Grecs ne connaissaient pas d'ailleurs, parce que chez eux, les Grecs privilégiaient ce que nous appelons l'éthique. L'éthique, c'est le choix de vie. C'est-à-dire, on choisit sa vie en fonction d'une certaine valeur, d'une valeur qu'on estime suprême. Par exemple, pour Achille, la valeur suprême était la gloire. Bon, pour la Cléopâtre de Corneille, c'était le pouvoir. Pour le philosophe, c'est la vérité. Pour Mère Teresa, c'était l'amour du prochain. Pour l'ordinaire, le commun des hommes, c'est le bonheur. Voilà. Après avoir écrit ce livre sur Lucrèce, j'ai donc fait une édition d'Épicure en 1977, qui a eu ensuite qui a été reprise par les presses universitaires. En 2013, j'ai éprouvé le besoin d'apporter certaines précisions sur certains aspects du système d'Épicure. De là, mon livre sur Épicure, qui a été publié aux Belles Lettres dans la collection Encre Marine. Et donc, le même jour, j'ai publié en somme deux livres, ce livre sur Épicure et puis Épicure en Corrèze. Voilà. Pour Épicure en Corrèze, je précise que le titre a été choisi par Sylvie Delassus des éditions Stock. Et pour moi, je n'aurais pas osé me comparer à Épicure. Mais il est vrai que je vis un peu selon les conseils d'Épicure, un peu un épicurien, oui. C'est-à-dire que j'ai une vie extrêmement simplifiée. On n'a pas besoin de se compliquer la vie, finalement. C'est-à-dire que je me suis exempté, par exemple, d'Internet, par exemple. Et je m'en félicite. Je m'en félicite tous les jours. Mais, évidemment, si j'étais en activité, je n'aurais pas pu.
Vous nous avez expliqué que l'éthique faisait qu'on allait se donner un certain nombre de règles de vie en fonction d'une valeur supérieure. Vous nous avez donné un certain nombre de valeurs, d'exemples de valeurs, qui peuvent être l'amour du prochain, qui peuvent être la gloire, la vie heureuse. Quelle est, vous, la valeur qui a polarisé votre vie, qui vous a donné une certaine éthique de vie ?
Eh bien, uniquement la recherche de la vérité. Uniquement. L'amour a joué un rôle important aussi, notamment l'amour de mon épouse, mais elle savait que si j'avais eu à choisir entre elle et la philosophie, c'est la philosophie que j'aurais choisie, oui.
Et alors, vous nous disiez tout à l'heure que Descartes définit la philosophie comme la recherche de la vérité, c'est la définition que vous en donnez, et pourtant, Épicure, que vous connaissez mieux que tout le monde ici, Épicure donne une autre définition de la philosophie, puisqu'il nous dit, je crois dans la lettre à Mencé, que c'est à travers des arguments et des réflexions la recherche d'une vie heureuse.
Oui, il est vrai que pour Épicure, la recherche de la vérité n'est pas le but ultime, mais c'est une condition sans laquelle on ne peut pas être heureux. Parce que il faut connaître la vérité pour savoir ce qui est faux. Et on ne peut pas vivre heureux avec des idées fausses. Les idées fausses, pour Épicure, c'est l'idée que les dieux interviennent dans le cours de la vie humaine, que les dieux s'occupent de nous. En réalité, cela n'est pas ça. Et puis, une autre idée fausse, c'est qu'il y a une vie après la mort. Ça, c'est encore une idée dont il faut se débarrasser. Et alors, il y a aussi des idées concernant le désir, c'est-à-dire il faut savoir qu'il faut distinguer les désirs naturels et les désirs vains. Il faut savoir que les désirs vains, c'est-à-dire les désirs que l'on a lorsqu'on vit non pas à la campagne mais dans les villes et qu'on veut réaliser les valeurs qui sont en honneur dans les villes, c'est-à-dire le pouvoir, les honneurs, l'argent, etc., que ces désirs vains ne mènent pas finalement au vrai bonheur parce qu'on n'est jamais satisfait par ce qu'on a en fait d'honneur, en fait d'argent, en fait de pouvoir, etc., mais on en veut toujours plus. Donc il faut s'en tenir au désir naturel. Voilà. Et par conséquent, là-dessus, vous venez de souligner un point sur lequel je ne m'accorde pas avec Épicure. Parce que pour moi, ma valeur suprême n'a pas été le bonheur, mais la vérité. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la vérité, même si elle doit me faire souffrir. Et je ne peux pas dire que la découverte, si je puis dire, de l'absence de Dieu, vous voyez, que m'est particulièrement enchanté. Peut-être bien que j'aurais été plus heureux si j'avais continué à vivre dans l'ambiance chrétienne, avec la douceur chrétienne. Non, ce qui me passionne, c'est uniquement la vérité, vous voyez. Et c'est pourquoi je me serais par exemple extrêmement difficile d'écrire un roman, vous voyez.
Et en même temps, vous avez l'air de dire que la vérité, c'est quelque chose qu'on peut atteindre avec une certaine certitude. Est-ce que vous diriez que vous avez acquis une forme de certitude quant à votre métaphysique ?
D'abord, quand je parle de la recherche de la vérité, il s'agit de savoir ce qui est vrai au sujet des choses éternelles. C'est-à-dire que être philosophe, ce n'est pas la même chose que de s'intéresser aux vérités dans le domaine physique, mathématique, historique et autres. Parce que là, ce sont des vérités touchant les événements de ce monde, événements qui sont passagers, qui sont éphémères, puisque ce monde ne fait que passer, finalement. Non, la métaphysique est la recherche de la vérité, mais au sujet de ce qui est éternel. Bon, alors, qu'est-ce qui est éternel ? La nature, le temps, le devenir, etc. Et puis la loi d'Héraclite, Pandare, tout passe, tout s'écoule, ça, c'est une loi qui, elle, ne passe pas, justement. Alors, est-ce que j'ai atteint la certitude ? Je dois reconnaître que oui. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Dieu parce que d'une certaine façon, je veux bien admettre les dieux du polythéisme. Sauf qu'ils n'existent pas, mais... Bien sûr, ils n'existent pas, mais ils m'inspirent du point de vue poétique. Il n'y a pas de Dieu parce que si Dieu existait, je m'excuse d'avoir une façon de voir vous est sans doute contraire, mais si Dieu existait, il me serait très difficile de vivre. J'aurais un sentiment d'absurdité. Pourquoi ? Eh bien parce que, en ce cas-là, toutes les horreurs du monde que l'on voit, toutes les souffrances innombrables, en particulier la souffrance des enfants, tout cela serait justifié. Et en ce cas-là, moi, je ne pourrais plus faire partie de ce monde, vous voyez. Non.
Mais si vous rejetez l'idée d'un Dieu créateur, personnel, tout-puissant, est-ce que néanmoins, vous vous posez la question d'une conception d'un divin plus impersonnel, à la manière dont les stoïciens peuvent le considérer, ou alors à la manière dont Spinoza peut considérer la nature, identifier Dieu à la nature, mais il y a quand même une dimension d'un divin qui est présent, il n'y a pas qu'un matérialisme pur et dur. Est-ce que vous pouvez, je dirais, imaginer d'autres formes du divin, qui pourraient ressembler à l'Orient notamment, que simplement la forme occidentale d'un être supérieur avec une intelligence qui parle aux hommes, etc. Il y a d'autres formulations du divin qui pourraient vous inspirer.
Oui, et j'ajouterais aussi un dieu qui ne serait pas nécessairement un dieu bon, puisqu'en fait ce qui vous pose problème, c'est la question de la bonté de Dieu. On peut imaginer un dieu infini qui ne soit pas nécessairement bon.
Mais vous avez tout à fait raison. Seulement, pour moi, mon domaine est celui de la philosophie. J'ai donc eu affaire aux philosophes qui admettaient la religion monothéiste. Et donc, je n'ai eu à me déterminer qu'envers des philosophes chrétiens. Ce que je leur reproche, c'est d'élaborer une philosophie théologisée, c'est-à-dire... Ils n'ont pas philosophé comme Spinoza, c'est-à-dire en se présupposant athée. C'est-à-dire, ils se présupposent athées peut-être, mais seulement ils restent en réalité chrétiens, et ils s'arrangent, n'est-ce pas, pour que la raison confirme la foi chrétienne. Alors, je sais que j'ai des amis qui me disent, qui m'ont parlé de l'impuissance de Dieu, c'est-à-dire... du fait que Dieu se retire pour laisser aller l'homme. Oui, c'est-à-dire c'est une idée qui se trouve plus ou moins chez Simone Weil, qui se trouve chez Jonas, par exemple. Non, pour moi, ce sont des enfantillages. Non, c'est-à-dire que... parce que vous ne pouvez pas réduire la puissance de Dieu, parce que si Dieu n'est plus puissant... eh bien, ces autres qualités ne peuvent pas non plus se manifester.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Mais je voudrais revenir à la question de la possibilité d'une conception du divin qui ne soit pas personnelle.
Oui.
Prenons le logos des stoïciens. Vous dites que vous avez été confronté à des dieux chrétiens. Mais les Grecs avaient inventé d'autres conceptions d'un divin qui n'est pas spécialement personnel et qui en même temps peut permettre de mettre dans le monde l'idée d'une direction, l'idée d'une pensée directrice.
Mais si vous songez aux stoïciens, cette idée de pensée directrice n'existe pas chez les stoïciens, puisque pour les stoïciens, tout est bon comme c'est. Il n'y a absolument rien à modifier à ce qui arrive. Le sage dit oui à tout ce qui lui arrive, parce que puisque cela arrive, c'est que cela devait arriver, et si cela devait arriver, c'est que Zeus, c'est-à-dire le Logos immanent, voulait que cela soit ainsi, voulait entre guillemets, que cela soit ainsi. Et de toute façon, vous savez, selon les stoïciens, le monde finit dans l'espurosis, c'est-à-dire la conflagration. Et ensuite, vous savez qu'il recommence identique à lui-même, à quelques détails près. Parce que s'il n'y avait aucune modification, alors le temps serait inutile. De sorte que finalement, il n'y aurait qu'un seul monde. Mais pour qu'il y ait eu une infinité de mondes se succédant, il faut quand même qu'il y ait quelques légers changements de l'un à l'autre. Mais de toute façon, avec les stoïciens, nous avons l'idée de l'adhésion totale au réel. Voyez. Et cela, parce que c'est justement rendre à Dieu le service qu'on lui doit, c'est-à-dire à Zeus, le service qu'on lui doit, que d'avoir une adhésion totale à ce qu'il juge bon de faire arriver. Voyez. Alors, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée au sujet de la bonté des choses, eh bien, là, et cela me rappelle un peu la pensée qui était celle d'Émilie. Émilie avait été influencée par Giordano Bruno.
Et rappelez-nous qui est Émilie, parce que pour ceux qui n'ont pas lu votre livre, nos auditeurs, dites-nous qui est Émilie.
Qui est Émilie? Eh bien, Émilie, lorsqu'elle est venue me voir en 2001 à Treffort, c'était une jeune femme de 31 ans, absolument charmante et impérieuse, vaguement arrogante, qui venait de Haute-Corse, où elle était bergère à Nocheta, pour me demander de lui apprendre le grec, parce qu'elle avait passé l'hiver 2000-2001 à méditer mon édition d'Héraclite. Et alors, la leçon qu'elle en avait tirée était que celui qui avait écrit cette édition et qui avait fait ce livre, celui-là devait pouvoir lui apprendre le grec. Elle est venue et j'ai essayé de discuter avec elle, mais j'ai vu tout de suite que je devais l'écouter. Je l'ai écouté, et parce que son langage était merveilleux, c'est-à-dire tout à fait inouï, tout à fait différent de tous les langages habituels, parce qu'elle utilisait toujours des mots mystiques, philosophiques, poétiques, etc. Alors j'ai été fasciné, et me suis dit, oui, pourquoi ne pas aller en Corse, après tout. Finalement, je ne l'ai pas suivi parce que je ne me suis pas senti capable d'être à la hauteur de ce qu'elle souhaitait. Et 7 ans se sont écoulés. Elle m'a téléphoné. J'ai compris qu'elle souhaitait que j'aille en Corse et j'y suis allé.
Mais vous racontez dans votre livre qu'Émilie vous a apporté quelque chose de très important. Elle a un peu élargi votre esprit à la culture orientale, non occidentale.
Oui, elle m'a fait lire les auteurs, les grands auteurs persans du XIIIe siècle. Elle m'a initié au soufisme. Ensuite, elle m'a fait lire des ouvrages des sages de l'Inde. Mais c'est de mon propre mouvement que je suis allé jusqu'en Chine. Non, elle ne m'avait pas parlé de la Chine. Et en 2002... j'ai passé toute l'année à étudier le chinois. Oui, alors pour en revenir à Émilie et à sa perception de la nature, je disais qu'elle avait été influencée par Giordano Bruno, c'est-à-dire qu'elle en avait retiré l'idée qu'il y a une sorte de bonté immanente qui traverse toute la nature. Et elle-même, elle se pense dans son action, par exemple, lorsqu'elle travaille sur la colline des Oliviers, ou lorsqu'elle fabrique son huile d'olive, elle se pense comme étant dans la ligne, dans le trajet de la force créatrice qui anime toute la nature. Et cette idée, bien qu'elle soit celle d'Émilie, je dois dire qu'elle me plaît beaucoup. Seulement, cette force immanente à la nature, cette bonté, il est difficile de l'appeler divine. Pourquoi ? Parce que il y a les deux côtés. C'est-à-dire que le boa est un parfait boa, une belle réussite de la nature. Mais il s'empare de l'antilope. Enfin, je ne sais pas si c'est des boas, les antilopes, je ne sais pas. Oui. Donc, il y a la belle réussite du lion ou du boa, et puis en même temps le sacrifice de l'antilope. Donc, il y a les deux côtés. C'est pourquoi je crois qu'il faut retenir l'idée hératitéenne qu'on a toujours les deux contraires, c'est-à-dire le bon côté et le mauvais aussi. Et c'est-à-dire, la vie ne va pas sans la mort. Donc les deux sont indissociables. Et alors, donc il faut dire oui à la vie, mais en même temps oui à la mort aussi, parce que les deux ne se séparent pas.
Comment vous situez par rapport, c'est une question que je voulais vous poser depuis longtemps et j'ai l'occasion de vous rencontrer, je vous la pose. Comment vous situez par rapport à Spinoza, qui identifie Dieu et la nature ?
Eh bien, moi aussi. C'est-à-dire que je me sens très proche de Spinoza. Si vous voulez, mon philosophe préféré, c'est Montaigne. Le plus grand des philosophes, pour moi, c'est Platon. Mais le philosophe de qui je me sens le plus proche, c'est Spinoza. Mais je suis quand même en désaccord total sur presque tout.
Avec Spinoza ?
Oui. Par exemple,
dites-nous sur quel point vous êtes en désaccord.
Ah, bien sûr, la liberté. C'est-à-dire qu'il dit que l'on se croit libre parce qu'on ignore les causes qui nous déterminent. Eh bien, c'est parfaitement juste, à condition de ne pas universaliser. Je veux dire que c'est juste pour la plupart des gens. Mais vous pouvez très bien vous détacher de tout ce qui vous a fait ce que vous êtes pour vous créer vous-même. C'est-à-dire que non, mais on voit bien que si vous écoutez les gens, la plupart de ce qu'ils disent, vous voyez bien qu'ils sont déterminés par ce qu'ils disent, ce qu'on entend dire, etc. etc. quoi. Mais à côté des libertés influencées, il y a des libertés libres. Rimbaud parle de la liberté libre. Oui, c'est-à-dire que la liberté est quelque chose qui a à être libéré.
Alors je voudrais qu'on termine cette rencontre déjà, ça passe très vite, avec une autre rencontre très importante de votre vie qui est celle de Montaigne. Moi je dois vous avouer qu'un livre qui a compté énormément dans mon parcours philosophique, c'est votre livre publié en 64, Montaigne ou la conscience heureuse, qui m'a donné une envie folle de lire Montaigne et que vous m'avez complètement éclairé dans la manière de lire Montaigne, parce que c'est difficile, Montaigne c'est un langage qui n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de choses. Et tout ce que vous évoquez dans ce livre m'a donné vraiment un formidable guide pour rentrer dans une lecture d'un Montaigne qui est profondément joyeux, d'un Montaigne dont vous expliquez très bien la nature du scepticisme. Vous élaborez la notion d'intime conviction qui est extrêmement éclairante pour comprendre la pensée de Montaigne. Donc c'est un livre qui, je crois, et beaucoup d'auteurs, des philosophes contemporains comme André Comte-Sponville et d'autres, ont été vraiment très éclairés par ce livre. Alors racontez-nous, vous-même, ce qui vous a ébloui dans Montaigne, qui vous a fait écrire un livre si lumineux.
Eh bien, vous savez, je vous ai dit que, étant élève au cours complémentaire de Beaulieu, j'étais destiné à devenir ensuite élève à l'école primaire supérieure, l'école normale primaire, voilà. Et à aller au lycée. Et au lycée, j'ai eu un cours sur le XVIe siècle, qui était excellent. Mais Montaigne est arrivé à la fin. De sorte que je n'ai pas eu de cours sur Montaigne. Jusqu'à l'âge de 41 ans, je n'avais pas lu une ligne de Montaigne. En 1963, André Robinet, qui dirigeait chez Segers la collection Philosophes de tous les temps, m'a demandé de lui écrire un livre soit sur Voltaire, soit sur Montaigne. Comme je connaissais déjà passablement Voltaire, mais pas du tout Montaigne, j'ai choisi Montaigne. Et alors, durant tout l'été 2003, j'ai lu Montaigne, mais alors de manière, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire méthodique et systématique, c'est-à-dire en tenant bien compte des ajouts. Parce que, vous savez, enfin je le dis pour les auditeurs, Montaigne c'est un terrain sédimentaire. Il y a plusieurs couches. Si vous prenez un essai, il y a plusieurs couches. Il y a la couche première, celle de 1580. Ensuite, il y a la couche, la seconde, de 1588. Et la troisième, qui est constituée par les ajouts manuscrits, puisque Montaigne a travaillé sur un ouvrage de l'édition de 1588, qu'il a bardé dans les marges de toute espèce d'appréciation, de considération, de remarques et de critiques et d'additions qui font, lorsqu'on publie des essais, qui font la troisième couche. Et alors, dans les bonnes éditions, la première couche est marquée par la lettre A, donc après le A, on sait que c'est le texte de 1580, B, 1588, et C, addition manuscrite. Voilà. Donc j'ai tenu compte de tout cela, et j'ai lu, évidemment, sans aucun préjugé d'aucune sorte, puisque je n'avais lu non plus aucun livre sur Montaigne, voyez. Et donc j'ai écrit ce livre, et il y a eu un article dans le bulletin de la Société des Amis de Montaigne, où il est dit que c'est moi qui ai rendu Montaigne à la philosophie. Parce qu'en effet, avant ce livre, Montaigne n'était pas considéré comme philosophe, mais comme un littéraire. Je dois dire que je me suis effacé devant Montaigne. C'est-à-dire, j'ai essayé d'être Montaigne, c'est-à-dire d'être tellement avec lui que moi-même, je me suis laissé de côté.
Mais qu'est-ce qui vous a plu à ce point chez Montaigne ?
Eh bien, c'est le sentiment fondamental que j'avais trouvé un homme à qui je pourrais demander conseil. Sur des questions délicates, Montaigne est quelqu'un à qui j'aimerais demander conseil. Par exemple, sur la question de l'avortement, vous voyez. C'est une question qui me touche beaucoup, moi. Parce qu'en principe, il m'est très difficile d'accepter l'avortement. Ça m'est très difficile. Parce que je ne peux pas croire que l'enfant à naître ne soit pas déjà un être humain. Et ne soit pas déjà un être humain dès le début. Bon, c'est ce que je crois. Mais cependant, je suis amené à admettre quand même, dans certains cas, l'avortement. Vous voyez, je ne pouvais pas faire autrement. Mais dans quel cas ? Eh bien, là, j'avoue que si le problème m'était posé, ça me serait très difficile de donner un conseil. Ça me serait très difficile.
Ce que vous êtes en train de souligner, c'est que Montaigne, et c'est une des choses que vous montrez très bien dans votre livre, est le grand philosophe du jugement, du discernement.
Voilà, c'est cela. C'est ce qu'on trouve chez lui, chez Montaigne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un au jugement de qui on peut se fier. Et ça, c'est une grande supériorité qu'il a sur tous les philosophes. C'est un philosophe, il n'y a pas de philosophe plus actuel que Montaigne. Seulement, voilà, il faut faire l'effort de l'entrée dans la langue du XVIe. Les traductions modernes, comme il y en a, eh bien, pour moi, sont des trahisons. Non. Il faut faire... Ce n'est pas un effort extraordinaire.
Et alors, il y a une dernière question que je voulais vous poser et qui est aussi importante pour Montaigne, c'est la question de la mort. Et on voit chez Montaigne, me semble-t-il, qu'il y a une évolution sur son rapport à la mort. Il me semble qu'au début des essais, il a une position plutôt stoïcienne en disant « il faut se remémorer, qu'on va mourir, il faut souvent penser à la mort ». Et puis à la fin des essais, il dit « non, il ne faut pas y penser, on est dans la vie, il faut mieux penser à la vie qu'à la mort ». Quelle est votre attitude personnelle, votre rapport personnel à la mort ?
Oui. Eh bien, écoutez, ce que vous dites au sujet de Montaigne est tout à fait juste. Pour moi, ma position personnelle au sujet de la mort, c'est celle du dernier Montaigne. Seulement, voilà, je ne peux pas l'appliquer, et en réalité, j'applique la première méthode. Voilà.
Oui. Vous contentez en fait de vivre à propos, en attendant.
Oui. Non, c'est-à-dire que je pense que je dois vivre comme si la mort ne devait pas advenir, puisque comme l'Épicure l'explique, on n'a pas du tout à penser à la mort, puisque tant que nous vivons, elle n'est pas là, et lorsqu'elle est là, on n'est plus là, hein, donc il ne faut pas y penser. Et je me dis qu'il a raison, mais malgré tout, je ne peux pas faire autrement que d'y penser. Mais ça ne me gêne pas du tout. Non, parce que pour moi, mourir, comme dit Socrate, c'est simplement s'endormir, c'est tout. Or, je n'ai aucune peine à m'endormir. Donc pour moi, mourir, c'est quelque chose qui sera, je pense, très facile. Enfin, cependant, je ne l'affirme pas absolument, nous verrons.
Merci beaucoup Marcel Conche de nous avoir reçus chez vous avec beaucoup de chaleur et puis c'était un plaisir pour l'un et pour l'autre, nous souhaitions vous rencontrer depuis longtemps et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc ça fera plaisir à votre éditrice, donc il s'intitule Épicure en Corrèze chez Stock et c'est un récit donc autobiographique où vous parcourez tous ces thèmes que nous avons abordés avec vous et de nombreux autres.
J'ai été très heureux de votre venue. Je vous remercie infiniment.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Christophe Massin pour parler de l'alchimie des émotions. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.